Hein? On a vraiment un moment très important du procès qui s'est déroulé ici ce matin au Palais de justice de Montréal. Parce que Éric Salvay était de retour à la barre des témoins. On sait qu'il a commencé hier à témoigner. Et là, aujourd'hui, eh bien, il nie catégoriquement tout ce que sa victime alléguée prétend, avance ou affirme. Donc là, on se retrouve dans une situation où il nie en bloc. Il a dit au juge ce matin, Bernard, qu'il n'a jamais harcelé cet homme-là, qu'il ne lui a jamais touché les fesses, qu'il ne l'a en fait jamais touché, peu importe l'endroit, que Donald Duguay, contrairement à ce qu'il prétend, ne l'a jamais formé au service du courrier de Radio-Canada en 1993. Donc, tu vois un peu le portrait. Déjà, là, tout ce que Donald Duguay a affirmé au cours des deux journées de son témoignage, eh bien, Éric Salvay dit présentement le contraire. Et en plus de tout ça, Bernard, Éric Salvay, qui témoigne, je dois dire, avec pas mal de confiance, hein, il n'est pas très tendu, très confiant à la barre des témoins aujourd'hui, il affirme au juge que jamais il a agressé sexuellement Donald Duguay dans une salle de bain de Radio-Canada en 93, que cette attaque-là, dit-il, n'a jamais eu lieu, que c'est une allégation de la victime qui est complètement farfelue, dit-il. Et il dit, en plus de tout ça, qu'il n'était même pas présent dans l'immeuble de Radio-Canada ce jour où l'homme de 47 ans, Donald Duguay, prétend avoir été agressé sexuellement. On a donc deux versions complètement contradictoires et on comprend, Bernard, que Salvay, depuis ce matin, eh bien, ce qu'il veut tenter de prouver, tenter de démontrer au tribunal, c'est que sa victime présumée, eh bien, elle a tout inventé.
Wow! Comment tu... Toi, là, qui en a quand même couvert un peu un autre, là... D'abord, est-ce que la victime réagit? Est-ce que tu peux la voir réagir, la victime présumée, encore une fois? Là.
Donald Duguay n'est pas présent. C'est le cas aujourd'hui, c'était le cas hier. Donc, Donald Duguay a assisté au procès, bien évidemment, lors des deux premières journées parce qu'il témoignait.
D'accord.
Mais depuis ce temps-là, on ne l'a pas revu ici dans la salle d'audience. Là, le problème, c'est qu'on a deux versions complètement contradictoires. On n'a pas Éric Salvay qui vient tenter de minimiser ses gestes ou qui vient tenter de dire, par exemple, que Donald Duguay aurait peut-être mal interprété ses avances, ces choses-là. On n'est pas dans un scénario comme ça, là. On est dans un scénario où un dit blanc, l'autre dit noir.
Le juge, il réagit comment? Le juge, est-ce qu'il se gratte la tête en disant « Ouais, là, je suis vraiment... » Non?
Non. Le juge, il est stoïque. Il prend des notes. Il regarde ça aller. Mais évidemment, il aura tout un travail. Là, lui doit déterminer, premièrement, qui dit vrai, qui dit faux. Mais surtout, il doit déterminer si... Avec ces témoignages-là, par exemple, de Salvay, lorsqu'il aura plaidoirie également de son avocat, est-ce que le clan Salvay a réussi à soulever un doute raisonnable? C'est juste ça que ça prend. Hein?
Oui.
Ça prend pas... Le clan Salvay n'est pas obligé de démontrer qu'il ne s'est rien passé et tout ça. Là. Pour l'instant, il dit qu'il ne s'est rien passé, donc ça facilite sa vie en tant que témoin. On comprend maintenant pourquoi il veut témoigner Éric Salvay. Parce que, comme il dit qu'il ne s'est jamais rien passé... tant dans la salle de bain que lors des périodes de harcèlement, ben c'est facile de maintenir la même ligne tout au long du contre-interrogatoire parce qu'on n'a qu'à répéter qu'il ne s'est jamais rien passé. Et là, c'est le contre-interrogatoire, justement, qui se déroule actuellement ici en salle d'audience.
Le contre-interrogatoire de Salvay.
Exactement.
C'est par le procureur de la Couronne, là. Oui,
exactement. Parce que là, hier et ce matin, plutôt, c'était l'avocat d'Éric Salvay qui lui posait des questions et on comprenait que tout avait été minutieusement préparé, probablement même répété.
C'est sûr.
C'était donc plus facile pour Éric Salvay à ce moment-là. Là. Mais là, c'est la Couronne qui pose des questions. Donc, Éric Salvay n'a plus le contrôle du jeu. Là.
D'accord. Tu vas avoir encore des choses à nous dire.
Pour l'instant, il s'en sort bien.
Tu vas avoir encore des choses à nous dire dans les prochaines heures, mon cher Philippe Bonneville, parce que ça va être intéressant de voir comment Salvay réagit aux questions, comment il encaisse les questions qui vont venir donc de l'avocat de la victime présumée. Là.
Et je veux peut-être terminer avec ça, te dire que on comprend présentement que la procureure de la Couronne en contre-interrogatoire tente de faire une preuve de mauvaise réputation, de mauvais caractère pour Éric Salvay, tente de démontrer qu'il faisait souvent des commentaires déplacés, des commentaires à caractère sexuel. Mais Éric Salvay, ce qu'il répond à chaque fois qu'il se posait des questions dans ce genre-là, il dit « Moi, j'ai jamais franchi la ligne ». Il admet qu'il aimait provoquer des malaises. Il dit que c'était de l'humour. Il dit pas que c'est impossible. Là. Pour lui, il dit, j'ai déjà dit à quelqu'un, t'as un beau petit cul ou ta robe te fait de très beaux seins. Mais il dit, j'ai jamais franchi la ligne, j'ai jamais voulu agresser quelqu'un. C'était juste pour créer des malaises, dit-il.
D'accord. Philippe Bonneville, donc au Palais de justice. Merci.
Merci. À tantôt.
Et là, j'ai devant moi Charles Bécoté, avocat criminaliste. Donc, il a défendu des personnes accusées ou criminelles, que ce soit vol à l'étalage ou meurtre. Hein? Vous avez fait tout ça, Maître Côté. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de l'avocat d'Éric Salvaille?
Ben, c'est habile et c'est le genre de travail qu'on doit faire dans ce genre de dossier-là lorsqu'on a deux versions contradictoires. Dans ce cas-ci, Salvaille se cantonne à dire « ce n'est jamais arrivé ». Et
comment le juge est supposé décider lequel dit la vérité?
Il n'y a pas à décider qui dit la vérité. Il doit évaluer selon, à la suite des contre-interrogatoires de chacun des témoins, interrogatoire et contre-interrogatoire, si leur crédibilité a été entachée, si la fiabilité de leur témoignage a été mise en doute de façon suffisante pour soulever un doute raisonnable dans son esprit. Première question que le juge doit se poser, c'est « est-ce que je crois l'accusé? » S'il croit l'accusé, il doit l'acquitter. Si, par contre, il ne croit pas l'accusé, mais sa version a soulevé dans son esprit un doute raisonnable, il doit en faire bénéficier l'accusé et l'acquitter.
Il doit l'acquitter.
Puis même s'il ne croit pas l'accusé, puis sa version, là, dit non, je la rejette complètement. Est-ce que, par contre, le ministère public s'est dégagé de son fardeau de faire une preuve hors de tout doute raisonnable? Et encore là, s'il en vient à la conclusion « j'ai un doute face au témoignage du plaignant », il doit en faire bénéficier l'accusé et l'acquitter.
J'ai l'impression que les dés sont, j'allais dire pipés, non, je ne peux pas dire ça, mais ce que vous me décrivez là, c'est comme si l'accusé a plus de chances de s'en tirer que la victime a de chances d'obtenir une condamnation.
Non, je vous dirais là, il faut comprendre. Non. Je peux pas partager cette opinion-là avec tout le respect que je te dois. Ceci étant dit, les dés sont vraiment pas pipés parce que ce qui est important de comprendre, c'est que le système, de la façon qui est fait, c'est qu'on n'a pas besoin de corroboration du plaignant. Il n'y a pas besoin d'une preuve corroborative. Alors, je peux très bien dire, là, demain, hors d'onde, Bernard Drainville, il m'a fait une menace parce qu'il n'était pas content de ce que j'ai dit ou de la façon que c'est sorti. Bien, c'est ma parole contre votre parole. Et si les policiers retiennent ma version, ma plainte, bien, il y aura des accusations portées contre Bernard Drainville. C'est ça, le système. Alors, c'est facile, entre guillemets, de partir la machine. Alors, c'est pour ça qu'il y a un contrebalancement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les forces de l'État également qui sont contre vous à titre d'accusé. Alors, c'est important qu'il y ait ce contrebalancement-là d'étape par étape. Puis c'est un test qui a été établi par la Cour suprême, dans l'arrêt WD.
Qu'est-ce que vous avez pensé de Michel Massicotte, l'avocat de Salvaille, là? Il a pris un ton assez, je vais utiliser le mot baveux, là. Assez cassant,
incisif,
ouais.
Effectivement.
C'est son style, la Massicotte, hein?
Ben, il y a une voix, il est capable de, on appelle ça une voix de stentor. Alors, dans une salle de cours, la voix porte. Et parfois, c'est pas difficile dans l'environnement, l'enceinte d'une salle de cours, là, que le ton de la voix monte énormément. Et je vous dirais que même moi, à certaines reprises, des fois, on est exaspéré, on n'a pas la réponse. Le témoin évite de répondre à nos questions. Et ça, à un moment donné, ça vient jouer sur comme n'importe qui. Et on peut hausser la voix. Je vous dirais que...
Mais les juges aiment ça. Mettons un gars comme Maître Massicotte, qui a eu l'air peut-être, par moment, j'étais pas là, mais dans ce qui a été rapporté, qui avait peut-être l'air un peu bulldozer, un peu matamor dans sa manière de traiter la victime présumée. Est-ce que le juge...
C'est évident que le juge, c'est le maître de sa salle et du décorum et de l'ordre. Alors, c'est évident que si Maître Massicotte avait dépassé les bornes, il aurait été rappelé à l'ordre. Alors, on ne sait pas. Moi, j'y étais pas moi non plus. Comment est-ce que le plaignant a témoigné? De quelle façon il répondait? Ça joue probablement. Il y avait peut-être un balancement, mais je peux vous dire que le juge l'aurait ramené à l'ordre si ça avait dépassé les bornes.
Donc, en résumé, vous regardez ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. C'est quoi votre, mettons, l'arbitre Côté qui regarde ça, là, Maître Côté, il se dit quoi, là?
Bien, le travail, il y a un bon travail qui est fait au niveau de la défense. On est présentement à l'étape du contre-interrogatoire et c'est au début du contre-interrogatoire. Maître Rivard est une avocate d'expérience qui fait de très bons contre-interrogatoires. Alors, ça va être à suivre. Qu'est-ce qui va pouvoir ressortir? Mais comme on l'a souligné, Éric Salvaille a été préparé, fort probablement, je peux vous le garantir, tant dans l'interrogatoire que dans le contre-interrogatoire. Alors, il doit anticiper.
Il y a eu de la pratique, lui.
On doit le faire. On n'a pas le choix.
À suivre, Charles Bécoté, donc avocat criminaliste. À la prochaine.
À la prochaine.
Dans un instant, le carambolage sur la 15 là, d'hier, on va parler à une victime qui était là, qui a eu vraiment toute une frousse. Et on va parler à un ambulancier qui était sur place aussi. Restez à l'écoute.